dans le forum avec Tony Marinaro. On se branche à Habs Radio.
On est de retour, 10h57. Simon Snake Boisvert, tous les mercredis. Comment ça va?
Simon, des problèmes avec sa connexion sur le Zoom.
Il n'est pas le seul. Tu sais, moi, j'avais des problèmes avec ma connexion de Wi-Fi aussi dans les derniers jours. Ouais. Donc, il n'est pas le seul qui a des problèmes de connexion.
Il était connecté, puis soudainement, son réseau semble avoir déconnecté quelques instants. C'est en train de charger encore une fois.
Ce qui est important, c'est que les Canadiens de Montréal ne sont pas déconnectés. Les Canadiens de Montréal sont là. C'est une grosse victoire hier. Simon Snake Boisvert, qui fait le podcast Processus avec Mathias Brunet, et il enregistre ça tous les lundis soirs, ça sort tous les mardis matin. Donc, si vous ne l'avez pas vu encore, vous pouvez le voir, mais s'il vous plaît, pas là, plus tard aujourd'hui, plus tard ce soir, quand il n'y a pas de programmation locale à BPM Sport, évidemment. Là, à ce moment-là, vous pouvez le regarder. Comment ça va, Snake?
Ça va bien, merci. Et toi, Tony?
Ça va très, très bien, merci. Donc, ça a l'air que vous avez parlé de Jake Evans dans votre podcast?
Ben, on en a parlé un petit peu. On a parlé aussi des autres agents libres que le Canadien a gardé dans l'alignement, sans les échanger, là, Dvorak, Armia et puis Savard. Alors, c'est ça. On a répété un petit peu là, pour le contrat de Jake Evans. On a répété un petit peu ce que toi et moi, on avait dit la semaine passée.
Oui, OK. Mais et toi, tu as dit que toi, le quatrième trio, c'est $1 million.
Oui.
On t'entend.
Le quatrième trio, c'est 1 million.
Ouais, mais
alors là, du 2,8 pour 4 ans, tu sais, c'est pas la fin du monde. Le plafond va monter à 113 millions dans 2 ans. Il n'y a rien là.
Ouais.
Puis t'as besoin de joueurs pour remplir des chandails.
Pour moi,
mais l'idée, c'est que Evans, d'après moi, même si c'est pas la fin du monde, ne vaudra pas le 2,85 millions.
Ouais. Pour moi, un joueur de quatrième trio, il joue 10-11 minutes par match.
Oui.
Evans en joue 16 de par son utilité défensive.
De par surtout la faiblesse du Canadien. Ces gars-là, les joueurs de soutien qui ont des années de carrière, des saisons de leur carrière, c'est jamais garanti qu'ils vont maintenir ce niveau-là pendant des années et des années et des années.
OK.
Processus.
OK, et le voilà. Donc, toi, joueur de quatrième trio, $1 million, Mathias Brunet qui dit, mais là, Evans joue 15 ou 16, et toi, tu dis, oui, c'est parce que le Canadien n'a pas un deuxième joueur de centre, en fin de compte. Donc, je pense que vous avez tous les deux raison, mais $1 million, là, évidemment, là, c'est il y a beaucoup qu'Evans fait pour une équipe. Là. Je te dis pas c'est le joueur le plus important pour le Canadien, là, mais je te donne un exemple, OK? Hier, j'ai parlé avec Pierre Maguire lors de mon podcast. Et Pierre Maguire a dit que quand lui coachait avec Scotty Bowman, quand Scotty Bowman était l'entraîneur... Là, évidemment, des Penguins de Pittsburgh, ils ont gagné la Coupe Stanley en 92, après l'avoir gagné avec Badger Bob Johnson, le regretté Badger Bob Johnson, en 91. Pierre Maguire était entraîneur assistant. Il dit que il a parlé avec Scotty Bowman, ils ont dit, les deux se sont dit, avec la masse salariale dans les années à venir, comment on va être en mesure de garder nos joueurs? Comment on est en mesure de payer tous nos joueurs? Et lesquels sont plus importants? Lesquels qu'on va garder? Lesquels qu'on va payer? Et Pierre a dit que eux autres, ensemble, lui et Scotty, ils ont mis un genre de profil de 7 joueurs. Donc, eux autres, ils ont dit un profil de 7 joueurs, on a besoin pour nous donner les meilleures chances de gagner un Coupe Stanley. Dans ce profil-là, il y avait quoi? Je vais essayer de m'en souvenir maintenant. Il y avait un excellent gardien de but, un très bon défenseur offensif, un excellent défenseur qui peut jouer beaucoup de minutes pour contenir l'adversaire, deux très bons joueurs de centre, un attaquant de puissance et un spécialiste. Donc moi, je lui ai demandé, le Canadien, on croit en ce moment dans leur équipe ou vont avoir dans le futur? Donc lui, il dit, le défenseur offensif, c'est Lane Hutson. Les joueurs de centre, il y en a un, c'est Nick Suzuki. L'attaquant de puissance, il y en a un, c'est Slavkovski. Le gardien but, selon Pierre, ça va être Jacob Fowler. Défenseur défensif pour contenir l'adversaire, ils pensent qu'ils n'ont pas ça. Deuxième joueur de centre, ils n'ont pas ça. L'autre spécialiste, au moment qu'on se parle, lui, il a mis Jake Evans. Ça peut changer, là. Ça se peut que ce ne soit pas Jake Evans. Mais au moment qu'on se parle, le spécialiste pour lui, c'est Jake Evans. Je suis pas sûr je suis entièrement d'accord avec ça, par exemple. Hein? Mais toi, qu'est-ce que tu en penses?
Bien, regarde. Premièrement, Jake Evans, là, il connaît la saison de sa carrière. Alors, est-ce qu'on parlait autant de Jake Evans dans les années précédentes qu'on en parle cette année? Et est-ce qu'on va en parler autant dans les années suivantes qu'on en parle cette année? Bon, ça, c'est la première chose que je dis. Deuxièmement, tu sais, je sais que je répète ça souvent, Tony, mais tu sais, quand on suit une équipe, on a vraiment le nez dedans, puis tous les joueurs de cette équipe-là, on les analyse, on les suranalyse, puis on les connaît très bien. Mais le Canadien évolue quand même dans une ligue où il y a 32 équipes. Puis ça serait le fun des fois que lorsqu'on sort des analyses comme ça, qu'on essaie de comparer les joueurs du Canadien aux joueurs des autres équipes. Tu sais, est-ce qu'il y a des gars qui font la job de Jake Evans ailleurs pour un salaire moindre? Est-ce que ça existe? Autrement dit, est-ce qu'un spécialiste comme Evans faut automatiquement que ça gagne 2,8 millions et plus? C'est ça ma question. Tu sais, je pense que... Tu sais... En tout cas, c'est ça que j'ai toujours dit. Il n'y a pas beaucoup de points de référence quand les c'est pas juste à Montréal, là, c'est comme ça partout. Les observateurs analysent seulement leur équipe puis ne voient pas ce qu'il y a ailleurs, puis ne voient pas comment ça pourrait être nécessairement amélioré parce qu'ils se disent ben on l'a notre spécialiste, on l'a notre joueur de centre, on l'a notre défenseur offensif. Oui, peut-être, mais ça serait-tu possible de regarder un petit peu ce qui se passe ailleurs? Puis surtout vers les équipes prétendantes à la Coupe.
Mathias Brunet, sur le Canadien d'ici 5 ans, vis-à-vis les autres équipes au Canada.
Mais si tu me demandes quelle va être la meilleure équipe canadienne dans 5 ans, je me permets de me poser la question. Okay. Ça va être le
Canadien. Qui sont les meilleures équipes canadiennes dans 5 ans?
Canadien.
Premier?
Qu'est-ce que tu en penses?
Bon, extrêmement, un exercice qui est extrêmement difficile parce que 5 ans dans le sport, c'est une éternité. Cependant, je te dirais, moi, que je suis d'accord avec Mathias pour Montréal, Ottawa. La question est de savoir dans quel ordre. Est-ce que ça va être Ottawa premier ou Canadien deuxième? Ça, je ne sais pas encore. Parce qu'il faut pas oublier qu'Ottawa a quand même un noyau de joueurs intéressants et majoritairement, ces joueurs-là sont jeunes ou dans la fleur de l'âge. Alors, les Stutzla, Sanderson, Kachuk, Dylan Cousins va encore être très bon dans quelques années. Mais le Canadien, c'est sûr, a beaucoup de joueurs qui s'en viennent, des jeunes qui s'en viennent, Ranbacker, Fowler, Michael Hage, Demidov. Moi, je te dirais qu'en ce moment, moi, je les mets nez à nez, Montréal-Ottawa.
Qu'est-ce que tu penses de Shane Pinto?
J'adore Shane Pinto pour ce qu'il est. C'est un joueur de milieu d'alignement. Puis, je trouve que c'en est un, ça, qui peut faire à peu près tout sur la glace. Pour le moment, il y a un salaire raisonnable. Puis, un autre élément important des Sénateurs, selon moi.
Le premier trio hier, moi, ma question du jour aujourd'hui, là, c'est dans les prochains 5 ans, le trio de Suzuki, Caulfield et Slavkovski va compléter la phrase. Je te donne l'opportunité de répondre à ma question du jour aujourd'hui. Ils vont faire quoi d'ici 5 ans?
Ben, est-ce que tu penses qu'ils vont rester ensemble avec l'arrivée de Demidov?
Pourquoi,
parce qu'à ce moment-là...
Pourquoi les séparer? Pourquoi les séparer?
Pourquoi les séparer? D'accord avec toi. D'accord avec toi. Quand ça va bien, on ne touche pas à ça. Mais est-ce que... Qu'est-ce que tu fais avec Demidov? Il va jouer avec qui?
Il va falloir aller trouver un joueur de centre pour lui.
Pardon?
Il va falloir aller trouver un joueur de centre pour lui.
Oui, puis ça va y prendre des minutes, Demidov. Alors, à ce moment-là, les minutes des ailiers, tu sais, il y a quand même 3 ailiers là, établis avec le Canadien, le Caulfield et Demidov qui s'en vient.
Ouais.
Comment il va en avoir un 4e? Comment tu répartis les minutes des ailiers Si Demidov devient ton meilleur joueur,
oui.
Ben, est-ce que le Canadien aurait deux premiers trios?
Mais ce serait difficile qu'il devienne le meilleur joueur des Canadiens, c'est son année de recrue?
Non. L'année prochaine, je pense pas.
Puis l'année recrue aussi, on prend en considération le calendrier, les 82 matchs, puis c'est un autre ligue. Oui, oui. C'est difficile de penser aussi là, qu'il va jouer 20 minutes par match.
Écoute, l'année prochaine, moi, je pense qu'il y a une très, très bonne chance de gagner le Trophy Calder. C'est mon choix là en ce moment. Mais, puis je suis d'accord avec toi, l'année prochaine, il joue, tu touches pas à ça. Là. Tu touches pas au trio de Suzuki. Mais le jour où Demidov, peut-être dans 2 ans, devient le meilleur joueur du CH, comment tu répartis les minutes des ailiers? Avec qui tu le fais jouer? Tu sais, si le Canadien n'a pas un deuxième centre vraiment là,
oui.
De haut calibre,
oui.
Tu sais, mettons, qu'est-ce qui arrive avec Demidov? Est-ce que tu le fais jouer avec Suzuki? Mais à ce moment-là, si tu le fais jouer avec Suzuki, tu es obligé de débarquer un ailier, là. Du trio premier trio actuel.
Moi, je suis convaincu que Demidov va faire du temps avec Suzuki puis Caulfield à un moment donné. Là. Tu sais, quand tu sais comment c'est le hockey, quand les choses vont pas bien, un entraîneur va jongler avec ses trios, il va changer ses trios, ces choses-là. Mais moi, j'ai jamais aimé la philosophie de casser quelque chose qui fonctionne pour faire fonctionner quelqu'un ou quelque chose d'autre. C'est pas... T'sais, Suzuki et Caulfield, ils ont tellement de chimie ensemble. Ils sont tellement à merveille sur la glace. Là. C'est pas. Quand la dernière fois qu'on a vu un duo à Montréal comme Suzuki et Caulfield?
Ben, ça fait extrêmement longtemps. Tony, le Canadien n'a pas repêché avant Caulfield. Caulfield ne l'a pas fait encore. Mais avant
Est-ce que tu préfères Plekanec avec Kovalev?
Ben, jamais de la vie.
Non?
Ben non, ben Kovalev, ça a été un feu de paille. Ça n'a pas été très, très long, Kovalev. C'est,
mais le temps que ça a été...
C'est grand moment à Montréal. Un an et demi à peu près, là, où il a vraiment été... il a excellé.
Mais une saison de 35 points, puis 35 buts, puis 84 points, ça a été assez excellent. Mais je comprends ton point. C'était pas à long terme. Là. Bobby Smith puis Matt Neslin, c'était quelque chose, là.
Oui, ça fait pas loin de 40 ans.
Danfoss, Bellows, Danfoss, Muller?
Oui, Danfoss, Bellows, ça n'a pas duré longtemps. Brian Bellows n'a pas joué longtemps à Montréal. Muller, il avait des qualités, mais c'était pas un joueur qui m'emballait plus que ça.
Mais pense au gabarit de Suzuki.
Oui.
Pense au gabarit de Caulfield. Il devient important, Slafkovský, comme compliment à ce trio-là dans le futur. Mais je pense que oui.
Regarde, pour aller dans ton sens, Tony, de ne pas changer ce qui fonctionne, puis c'est correct, là. Et ça va être à Demidov, probablement, d'être la locomotive de son trio. Même si ce n'est pas un joueur de centre, là, ça va être à lui d'être la locomotive de son trio, puis de rendre les deux gars avec qui il va jouer meilleur. La question est de savoir qui vont être ces deux gars-là. Est-ce que ça peut être Michael Hage? On ne le sait pas. Puis à l'aile, il n'y a pas vraiment personne... Moi, que je vois à court ou à moyen terme, capable d'être un vrai top 6. Parce que, tu sais, une chose qu'on remarquait, mettons, dans le match d'hier soir, puis c'est pas la première fois que ça arrive cette année, tu sais, on voit que le Canadien, son milieu d'alignement, là, du côté des attaquants, c'est vraiment, vraiment ça le point faible de l'équipe. Le point faible de l'équipe, c'est pas le premier trio, puis c'est pas les joueurs de soutien, puis je te dirais que c'est pas les défenseurs ni le gardien de but. Le point faible, c'est vraiment le milieu d'alignement. Tu penses pas?
Oui, il y a des réponses qui rentrent, là. Koivu, Recky. Koivu, Recky. C'était correct. Je préfère Suzuki Caulfield.
Ça coûte quoi? Je dirais, moi, je préfère Recky à Caulfield, mais je préfère de beaucoup Suzuki à Koivu.
Oui. Écoute, Koivu, il y avait une année de tonnerre à un moment donné, puis là, il y avait eu la blessure qu'il a eue, puis je me semble qu'il était le meneur pour les points. Dans la Ligue nationale, au moment de sa blessure, là, il aurait pu être quelque chose, mais Sako Koivu, là, il n'a jamais produit comme Nick Suzuki a produit l'an passé et va produire cette année.
Non. C'est sûr que les défenseurs de Koivu vont dire qu'à un moment donné, il jouait avec Oleg Petrov. Ça n'aidait pas. Hein? Ouais. C'est sûr. Mais non, moi je trouve que Suzuki est un joueur supérieur à Koivu, là. On a un échantillon quand même assez grand là, pour les comparer.
Il y a eu quelques saisons dans les 70 points, Koivu aussi, mais question pour toi. c'était plus difficile de marquer des buts. En 1995, 96, 97, aujourd'hui en 2025.
OK. Après 1996, ça j'ai déjà fait la recherche là, il y a quelques années.
OK.
Il y a eu une baisse, après 1996, la Coupe Stanley de l'Avalanche,
ouais.
Il y a eu une baisse drastique dans la Ligue nationale de hockey et ce qu'on avait même baptisé à l'époque le Dead Puck Era. Là,
exact.
L'ère de la rondelle morte. Là.
Ouais.
Mauvaise traduction, mais on comprend ce que tu comprends ce que je veux dire.
Ouais.
Et ça, ça a duré jusqu'au lockout de 2004.
Ouais.
Alors, entre 1996 et 2004, le hockey était plate. Il y avait vraiment pas, c'était très difficile de marquer des buts. Puis, c'est sûr que Koivu a joué à une époque vraiment, c'était mortel là, pour lui de jouer à cette époque-là. Ça, je l'avoue.
Donc, encore une fois, là, en 1996-97, Mark Recchi avait connu, avec le Canadien, durant le temps qu'il était avec le Canadien, sa meilleure saison. 34 buts, 46 passes, 80 points. C'est loin d'être les saisons de 113, puis 123, puis 107 qu'il avait fait avec Lindros, avec les Flyers. Là. Mais quand même, des bonnes saisons. Là. Mais moi, je te pose la question parce que tu m'as dit que tu préférais Recchi à Caulfield.
Ouais.
Si on compare les buts que Recchi a fait en 96 et les buts que Caulfield fait maintenant en 2025, c'est plus difficile? C'était plus difficile pour Recchi pour marquer les 34 ou 35 ou Caulfield en 2025?
Je pense que c'était plus difficile pour Recchi, mais moi, je te parle de l'ensemble de l'œuvre. Je préférais Mark Recchi comme joueur de hockey dans l'ensemble.
Ouais.
Tout, puis ça, on compare des époques. Là, ça fait quasiment 30 ans. Fait que, tu sais, est-ce que Recchi aujourd'hui, le Recchi de l'époque, comment il serait aujourd'hui, on ne sait pas. Mais moi, je te parle proportionnellement au calibre de cette époque et au calibre d'aujourd'hui. Moi, je trouvais que Mark Recchi était un joueur plus complet. Puis je te dirais plus qui générait plus que Cole Caulfield.
Écoute, par contre, pas de problème avec ça. On parle d'un gars qui a été dans la tente de la renommée, là.
Oui, c'est ça. C'est ça. Mais je préfère de beaucoup Suzuki à Koivu.
Puis c'est un gars qui a gagné des coupes cette année avec plusieurs équipes aussi, là. Mark Recchi, voilà. Là, ces choses-là n'arrivent pas par coïncidence non plus. Un gars qui a eu la longévité aussi, là. Il a beaucoup joué dans le National. Là. Il a joué 1652 matchs. Il a marqué 577 buts. Les Coupes Stanley les a gagnés avec Pittsburgh, la Caroline et les Bruins de Boston.
Il a joué très longtemps, Mark Recchi. C'est un des meneurs pour les matchs joués dans l'histoire de la Ligue, il me semble. Il doit être certainement dans le top 5 ou 10, là.
On est de retour avec Snake Boisvert tous les mercredis dans notre segment Abs Radio. Alex Noua qui était au centre du deuxième trio hier. Snake, j'aimerais savoir qu'est-ce que tu as pensé de son match.
J'en ai pas pensé grand-chose, honnêtement. Alex Noua, malheureusement, je pense qu'il n'y a pas d'affaire dans un top 6. Je suis même pas sûr s'il y a d'affaire au centre. Mais dans le meilleur des cas, là, Noua, c'est un joueur de troisième trio. Soit à l'aile, soit au centre, là, mais surtout à l'aile. Je trouve que c'est un gars qui est beaucoup plus à sa place à ce moment-là. Si tu remarques, là, tous les bons matchs qu'Alex Newhook a connus cette année, c'est lorsqu'il jouait sur le troisième trio. Donc, les adversaires sont moins difficiles à affronter.
Ouais.
Puis, je pense que c'est vraiment sa niche. Moi, je le garderais. Je l'aime bien, Newhook, pour ce qu'il est. Mais là, vraiment, il joue. Il est vraiment pas dans la bonne chaise, là, pour employer une expression populaire.
J'ai posé la même question à Denis Gauthier hier. J'ai dit, Alex Newhook va jouer au centre. Tu penses quoi? Tu le vois où? Lui a dit, ailier troisième trio.
C'est ça. Puis le jour où il va être là en permanence, ben là, ça veut dire que le Canadien aura réglé son problème de deuxième trio, comme ce que je te disais tout à l'heure.
Soirée difficile pour le Canadien dans les mises en jeu hier. Suzuki 47%, Newhook 46%, Dvorak 46%. AJ Kevins, 44%. Donc là, c'est ça, c'est un endroit où c'est difficile. Newhook a quand même eu 4 lancés au but hier. Écoute, il était jumelé à Brendan Gallagher et à Joshua Roy. C'était un match important pour Joshua Roy hier. Et de lui, t'as pensé quoi exactement?
Ben, ça a pas été facile pour lui non plus. Mais encore là, tu sais, c'est Roy, Gallagher, Newhook, c'est pas un deuxième trio. Gallagher, cette année, il est excellent sur le quatrième trio. C'est un des meilleurs joueurs de quatrième trio de la Ligue. Joshua Roy, tu sais, on s'attendait au début de l'année à ce qu'il prenne charge du troisième trio, qu'il soit sur le troisième trio. Finalement, il a été retourné à Laval. Lui, c'est toujours la même chose. Tu veux voir plus de hargne, plus d'effort. Un petit peu ce qu'il avait montré dans l'échantillon où il avait été, lorsqu'il avait été rappelé l'an dernier, qu'il avait joué une vingtaine de matchs. C'est ce genre de Joshua Roy-là qui va pouvoir se tailler une place dans la LNH. Mais encore là, on parle de troisième trio. Alors, tu mets Roy, Newhook sur un troisième trio avec quelqu'un d'autre, peut-être un peu plus dynamique. Puis là, tu pourras avoir quelque chose. Mais Roy, la bataille n'est pas gagnée là, pour faire la Ligue nationale à temps plein.
Il y a des moments où est-ce qu'il bouge pas ses pieds, Joshua Roy, puis ça a l'air que le jeu va vite pour lui.
Mais Tony, ça a toujours été le cas. À Sherbrooke, les deux dernières années, où il y a eu 100 quelques points, c'était ça. Puis moi, je me souviens, je le disais, il produit parce que il a un super instinct offensif, c'est du junior, puis il est plus vieux que les autres joueurs. Mais c'est sûr que ça a toujours été un problème pour Roy. Le jeu de pied, le rythme du jeu, comme on dit, le pace en anglais. C'est pour ça, je ne sais pas si ça peut s'améliorer. Là. Je ne sais pas à quel point ça peut s'améliorer.
OK. Lane Hudson hier, des petits jeux, c'est des choses, des fois tu vois pas, c'est des choses qu'il fait encore une fois, là, mais... Il a l'air tellement à l'aise, il est tellement confortable. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut dire sur Lane Hudson qu'on n'a pas dit encore. Là. Mais même, je trouve que maintenant, qu'est-ce qui est intéressant dans son jeu, c'est même quand il fait des... Il y a des matchs où est-ce qu'il n'y a pas de points, tu vois comment il joue bien.
Ben, vois-tu, je vais te dire quelque chose qui n'a peut-être pas été dit encore parce que ça vient d'arriver. Moi, je trouve que Lane Hudson, depuis le retour de la pause des Quatre Nations... Il est peut-être moins spectaculaire qu'il l'était en début de saison, mais il a beaucoup amélioré, il a beaucoup stabilisé son jeu. Tu sais, tu voyais qu'au début de l'année, il essayait toutes sortes de choses, ça marchait, d'autres fois, il perdait la rondelle. Tu sais, c'était vraiment une machine à un peu de tout, à générer des chances de marquer d'un bord et de l'autre. Je trouve qu'il a beaucoup, beaucoup calmé son jeu, puis il devient un défenseur extrêmement, beaucoup plus mature qu'avant. Puis je pense que ça augure bien, dans le sens que ça n'enlève pas qu'il va être le défenseur offensif du Canadien, mais peut-être aussi qu'en minimisant les erreurs, ben, il va peut-être aider plus son équipe. Alors, je te dirais oui, depuis un mois, là, on voit un Hudson, c'est très intéressant.
Je vais revenir à Joshua Roy parce que Jocelyn, sur la messagerie texte, il dit « se laisse traîner sur ses patins ». Je l'ai vu une dizaine de fois à Laval. Il ne m'a pas impressionné. Il a beaucoup de talent, oui, mais il n'a pas le cœur de Gallagher.
Ben, il y a un flair offensif, mais c'est sûr qu'il faut que tu te défonces dans la Ligue, surtout si tu n'es pas un gars rapide, naturellement. Il faut que tu te défonces. Puis ça, on l'avait vu de Roy l'année passée. Il y avait eu une séquence où même ça m'avait surpris.
Ouais.
Puis j'avais dit, waouh, le gars vraiment, là... Tu sais, c'est pas le gars que j'avais vu dans le midget puis dans le junior. Puis là, on dirait que cette année, je ne sais pas s'il trouvait que son poste était assuré au camp d'entraînement, mais il est redevenu le roi qui se fie pas mal à son flair offensif. Mais on le sait que dans la LNH, même pour les meilleurs joueurs, hein, même ouais. Pour les grandes vedettes, le travail est très important.
Dit Paul de Deux-Montagnes, interviewé hier à RDS, il avait l'air essoufflé, Joshua Roy. D'après moi, il trouvait que ça patinait en titi comparé à la Ligue américaine de hockey.
La marche est très haute de ce côté-là. La Ligue américaine de hockey, c'est un bon calibre de jeu, mais la vitesse de la Ligue nationale est rendue complètement... c'est rendu capoté là, maintenant, la vitesse à laquelle ça joue.
Dit Martin, Joshua me fait penser à Mike Hoffman. Mike Hoffman avait un meilleur lancé que Joshua Roy, là.
Oui, Mike Hoffman était un meilleur marqueur. C'est ce qui fait que Mike Hoffman a eu une carrière dans la Ligue nationale. Il y a toujours une équipe qui le récupérait parce qu'il disait « Mike Hoffman va nous faire 25-30 buts.
» Mitch Garber est allé d'un commentaire quand on a parlé de vedette. Il dit « Ça se peut que les Canadiens l'ont trouvé leur vedette en Demidov. Ça se peut qu'il peut être un McKinnon de la Ligue nationale de hockey. » Mais il y en a même quelqu'un d'autre qui veut parler de Demidov. Il dit « Tony, j'ai une question pour toi sur la messagerie texte. » Je n'ai pas son nom, je pense que c'est Maxime. Est-ce que Snake est inquiet de Demidov depuis la mi-janvier?
Pas du tout. Pas du tout, parce que la KHL, là, c'est extrêmement... Tu sais, c'est un peu n'importe quoi. Dans le sens, dans la gestion des joueurs, particulièrement les jeunes joueurs. Et c'est ce qui fait que tu regardes un match de la KHL, puis des fois, tu vois des gars qui avaient de la misère dans la Ligue américaine de hockey, qui se retrouvent là, et puis qui sont des machines à faire des points. Puis tu as d'autres gars extrêmement talentueux qui se retrouvent dans la Ligue nationale un jour, sont très bons, puis dans la KHL, on les faisait pas jouer. Tu sais, Demidov, il n'est pas dans la situation idéale, malheureusement, mais heureusement, le contrat finit à la fin de l'année. Mais moi, je ne suis pas du tout inquiet de ce que je vois de sa part.
Stink, je suis curieux de t'entendre. Premièrement, comment tu vois le Kraken de Seattle? Parce que cette équipe-là, j'ai l'impression, j'ai de la misère à me faire une tête dessus. Est-ce qu'elle est en reconstruction? Est-ce qu'elle est sur le statu quo? Est-ce qu'elle pousse? C'est comme un alignement avec un mélange de tout. J'ai regardé la banque d'espoir. Il y a quelques noms, mais il n'y a rien d'extraordinaire. L'équipe que le Canadien affronte ce soir, c'est qui?
Oui. Justement, on en a parlé dans le podcast du Kraken, dans l'analyse hebdomadaire des équipes. Le Kraken, c'est une équipe qui a un paquet d'attaquants de milieu d'alignement. Tu sais, je te disais, ce qui manque aux Canadiens, le Kraken, il y en a, ça déborde.
Ouais.
Il y a des joueurs intéressants. Hein? Chandler Stephenson, je ne le déteste pas. Jaden Schwartz, Matthew Beniers, Jared McCann, Jordan Eberle. Mais si tu remarques, c'est tous des gars de milieu d'alignement que je suis en train de te nommer. Et, et les défenseurs, c'est la même chose. Tu sais, les Oleksiak, Larson, Ryker Evans, Vince Dunn, c'est tous des joueurs de pratiquement de deuxième paire. Il y a eu Brenton Montour là, qui a été signé, qui avait cartonné en Floride là, l'année passée. Mais en général, encore là, on a tous des défenseurs de deuxième paire, des joueurs de milieu d'alignement. Les gardiens de but, c'est la même chose. Joey Ducard, Philip Grubauer, des goalers corrects, mais sans plus. Alors, tu te retrouves avec une équipe dans ce temps-là qui est dans les 10 points bonnes de la Ligue, mais qui peut... tu sais, c'est pas une proie facile. Parce que c'est pas une... Tu sais, c'est... Comment je pourrais dire ça? Leurs 15 moins bons joueurs, tu sais, les joueurs de 5 à 20, ils sont aussi bons que la majorité des équipes. Le problème, c'est que leurs 4 meilleurs joueurs sont vraiment, vraiment moins bons que probablement 80% des équipes de la Ligue nationale. Je sais pas si je me suis bien expliqué, là, mais... Ouais.
Parle-moi de Matty Beniers. On va le voir ce soir. Là. Moi, je trouve personnellement que le repêchage 2021, là, si on le regarde aujourd'hui, là, c'est très intéressant parce que Owen Power, qui est parti premier, là, il connaît pas la carrière à date qu'on s'attendait de lui. Matty Beniers, sa première saison complète, je pense, a été excellent. Puis depuis ce temps-là, les dernières deux saisons, c'est sur le déclin. Mason McTavish, c'est correct, mais je pensais que ce gars-là allait récolter beaucoup plus de points que ça. Luke Hughes, c'est un bon défenseur, ça c'est sûr. Kent Johnson, cette année, joue vraiment du bon hockey, je pense, pour les Blue Jackets de Columbus. Ensuite, après ça, il y a Simon Edvinson, William Eklund, Brant Clark. Dylan Cunter, c'est un bon joueur qu'on trouve à Utah. Parle-moi de ce repêchage-là. On dirait qu'il y a plusieurs joueurs que le meilleur semble être, corrige-moi si j'ai tort, là, mais Wyatt Johnston, wow. Lui qui était repêché 23e par Dallas.
C'est lui le meilleur. Moi, j'avais Luke Hughes premier cette année-là.
Oui.
Je pense que Luke Hughes, j'aime bien son développement, mais là, j'aimerais ça avoir un petit peu plus d'offensive de sa part, là, parce que c'est pour ça que je l'avais premier. Je trouvais, moi, que c'était... le frère Hughes, tu sais, qui était le plus costaud. Il patinait aussi bien que les deux autres, ou presque. Alors, lui, en tout cas, lui, on va voir, mais j'ai encore confiance. Mais je pense que ce qui est arrivé, là, Power, Beniers, McTavish. Mon opinion, c'est qu'à l'époque, Buffalo, Seattle, Anaheim, ils n'ont pas choisi un joueur en fonction de son plafond, mais ils l'ont choisi en fonction de son plancher. Matthew Beniers, il avait un plancher très élevé. Dans le sens que c'était une valeur sûre pour jouer à tout le moins sur un deuxième trio dans la LNH, puis qui donnerait du bon hockey, mais pas nécessairement qui deviendrait une vedette. Alors, à Seattle, on a été très conservateurs pour parler là, de la construction de l'équipe là, dont Alex parlait. Seattle, c'est Ron Francis. Ron Francis avait bâti une équipe de façon très conservatrice en Caroline. il fait la même chose à Seattle, puis à un moment donné, il va se rendre compte qu'il va aller à nulle part avec ça, puis c'est pour ça que le Kraken va manquer les séries. Owen Power, pour moi, c'est un gars qui dominait à cause de son physique, principalement. C'était pas un gars qui était très, très bon manieur de rondelle. C'était pas un gars, j'aimais pas du tout son pivot en zone défensive. Puis on voit là à Buffalo, on a été rapide à lui donner un gros, gros contrat. Là, lui, il est payé comme un joueur élite. Puis Owen Power, pour moi, je ne sais pas combien d'équipes en voudraient aujourd'hui.
Puis je me demande cette année de repêchage-là, si les gars n'ont pas bénéficié du fait qu'ils jouaient tous pour la même équipe. C'est une équipe de puissance, là. Matty Berniers, Luke Hughes, Kent Johnson, puis Owen Power, si je ne me trompe pas, tu connais si j'ai tort, ils jouaient tous pour l'Université du Michigan.
Hughes, pas encore, parce qu'il s'en allait à l'Université du Michigan, mais les trois autres étaient là, Berniers, Johnson et Power. Mais ça, c'est le danger. Hein. Tu sais, tu regardes en ce moment à Boston College, il y a James Higgins avec Gabriel Perrault et puis Ryan Leonard.
Oui. Exact.
L'année passée, il y avait Will Smith qui était avec eux. Ben là, à un moment donné, on se posait toujours la question, quand ces gars-là vont être séparés, qu'est-ce qui va arriver dans la LNH? Alors, t'as un bon point, Tony. T'as un bon point. Johnson, Beniers, Power, c'est sûr que tout le monde va s'aider dans cette situation-là. Michigan avait un club très puissant cette année-là. Mais en ce moment, je pense que Johnson est en train de sortir comme le meilleur des trois. Et Johnson, à l'époque, était le plus talentueux. La seule différence, c'est que Johnson n'était pas un joueur complet, puis c'était un joueur qui était peut-être plus frail que Power et Beniers. Donc, dans l'immédiat, c'est ça que Buffalo et Seattle se sont dit, on va prendre les gars qui sont plus prêts pour la Ligue nationale. Mais en ce moment, je pense que Johnson, après un début de carrière difficile, est vraiment en train de dépasser les deux autres.
Si je peux, je suis allé sur le HockeyDB pour checker ça. Non, Luke Hughes a joué avec eux autres, Snake.
Oui, il a joué avec... Ouais. Oui, mais... pas à son année de repêchage, pas en 2021.
Non, non. Là, il a joué avec eux en 2021, 2022, mais pas en 2021. T'as absolument raison, parce que, oui, t'as absolument raison. Il avait joué, il était avec le programme de développement des États-Unis. T'as absolument raison, oui.
Exact.
Ouais. OK. Donc, gros match ce soir. En terminant, Elias Pettersson fait beaucoup jaser, là. Je me demande... Tu sais, j'ai parlé avec Pierre Maguire hier, là, j'ai dit, Rick Tocchet, il va devenir fou avec ce joueur-là, parce que tu vois le talent, mais il n'est pas toujours impliqué. J'ai dit, comment ça va fonctionner avec Rick Tocchet puis Elias Pettersson? Puis lui, sa réponse a été de, Rick Tocchet en dernière année de son contrat, puis je sais pas.
Pettersson, il est difficile à évaluer, hein? Moi, je me rappelle à son année de repêchage en 2017, j'étais quand même tombé en bas de ma chaise s'il soit repêché aussi haut. Puis j'ai parlé à un recruteur en fin de semaine. Mm-hmm. On a parlé de Pettersson justement et il m'a dit qu'à l'époque, il l'avait 15e sur sa liste en 2017. Mais Pettersson, quand il est arrivé dans la LNH, il a vraiment fait flèche de tout bois. Il a eu des très, 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 très bonnes saisons, particulièrement le 2023 et 2024. Et on dirait que le château de cartes s'est effondré dans les séries l'année passée, où on a vu le Pettersson de cette année. Alors, est-ce que ça signifie que Pettersson est vraiment sur une descente, déjà à son âge? Ou est-ce qu'il a besoin, je ne sais pas moi, d'être échangé? Ou est-ce que c'est simplement une mauvaise passe dans sa carrière? Mais l'implication de Pettersson n'a jamais vraiment été là. C'est juste que le gars il était super habile. Puis peut-être que Vancouver, à l'époque, si je me rappelle, jouait un style de jeu un petit peu plus ouvert. Puis ça favorisait Pettersson. Puis il y avait quand même des meilleurs coéquipiers. N'oublie pas que Vancouver, là, avec les échanges qui sont faits dans les dernières années, ils se sont quand même affaiblis. C'est plus l'équipe d'il y a quelques années. Tu sais, avec JT Miller, et puis il y avait Besser, puis tu sais, Quinn Hughes en pleine forme. Tu sais, petit à petit, on dirait qu'on est en train d'enlever des éléments à cette équipe-là. Bon, Horvat n'est plus là non plus. Fait que je ne sais pas où ça s'en va avec Pettersson. Puis avec un contrat de 11,4 millions, si Vancouver veut l'échanger, je pense qu'ils vont être obligés de garder du salaire.
Merci beaucoup, mon ami. Canadien Kraken ce soir. Shane Wright.
Oui.
Je voulais te laisser, là, mais Mitch Garber, des propriétaires du Kraken Seattle, sur Shane Wright plus tôt ce matin.
premièrement, c'est un jeune homme, un excellent jeune homme. Deuxièmement, il va peut-être marquer 20 buts cette année, il y a 15 maintenant. Il joue 13 minutes et demie, donc pas le 16 et demi de d'autres joueurs. Et quand même, il y a une saison très, très, très bon. Je vois juste un futur très, très, très brillant pour Shane. Il faut vraiment regarder comment il joue. Il a plus de confiance à chaque match, à chaque match. Donc, il veut avoir la rondelle. Il voulait pas vraiment. Il reste sur la glace. Il voulait pas vraiment. Regarde, quand vous êtes un recrue, c'est peut-être un peu gênant. Et maintenant, je pense qu'il s'établit comme un joueur d'impact pour le Kraken. Puis on est très, très content de son progrès.
Qu'est-ce que tu en penses?
Ben, toi, bon, c'est sûr que Mitch parle pour un joueur de son équipe, là. Mais je suis pas mal d'accord avec ce qu'il dit dans le sens que, tu sais, Shane Wright, il y a 20 ans. Alors, si on dit aux gens d'être patient pour Slavkovski et autres joueurs de cet âge-là, ben, il faut être patient avec Shane Wright. Shane Wright, moi, je trouve, il a eu beaucoup trop de pression sur ses épaules à la base parce que c'est un gars qui, à l'âge de 15-16 ans, était déjà à maturité, à pleine maturité, et il dominait. Et ensuite, il a perdu cet avantage-là. Je pense que le Shane Wright qu'on voit en ce moment, c'est le Shane Wright qui va être un bon joueur top 6, pas nécessairement une vedette, mais pas nécessairement un gars super dynamique, mais un gars qui va être très utile. Puis, tu sais, on l'a choisi au quatrième rang. Alors, en choisissant au quatrième rang, beaucoup moins de pression sur ses épaules pour produire que s'il avait été choisi premier. Alors, c'est ça. Moi, je te dis, bon joueur, bonne carrière, mais c'était... Je maintiens encore que c'est correct, puis que le Canadien ne l'ait pas choisi premier. C'était pas mon choix, puis ça ne le serait pas encore. Mais j'aime bien Wright, un bon joueur.
Merci beaucoup, Snake.
Salut, Tony.